Alors, merci Michel. C'est pas facile de passer après un si grand orateur et un si grand expert, mais je vais faire de mon mieux. Alors, je suis ici pour vous parler d'une autre approche, l'approche narrative, qui fait partie de ce qu'on appelle des lectures synchroniques de la Bible, c'est-à-dire qui ne font pas appel à l'histoire de la rédaction ou des couches antérieures, etc., du texte biblique, mais qui le prennent dans son état final comme une unité cohérente. Au sein de ce groupe figure en bonne place l'analyse narrative qui a été importée des cercles littéraires profanes. Comme son nom l'indique, elle a pour objet premier l'analyse des récits, mais en tant que récit, pas en tant que théologie ou autre chose, en tant que récit. Elle s'attarde donc à des éléments tels que la configuration des personnages, l'intrigue et l'enchaînement des actions, les points de vue et les perspectives de la narration, les modalités de la voix qui raconte le texte. Je dirais d'emblée, pour répondre à la question qui était un peu la question posée ce soir, je dirais d'emblée qu'elle ne se prétend pas une méthode exégétique qui pourrait discuter la place avec une approche telle que l'approche historico-critique. Elle n'est pas capable à elle seule d'interpréter les textes bibliques, d'en extraire le sens et la signification. Ce n'est pas son objet, ce n'est pas son rôle. Donc, je pourrais m'arrêter ici ce soir parce que j'ai répondu à la question. Elle ne prend pas la place. Mais je vais quand même vous faire une brève présentation de cette approche et vous donner un aperçu de ce qu'elle fait dans un texte à partir du texte du chapitre 1er de l'Évangile de Jean. Avant toute chose, cette approche nous rappelle qu'une narration est un acte rhétorique, au même titre qu'un discours. C'est-à-dire, c'est un outil de communication qui est produit par un auteur et destiné à un lecteur, ou un destinataire, si c'est oral, ça va aussi, mais pour les textes écrits, destiné à un lecteur, pour l'influencer d'une quelconque manière, soit pour l'informer, le convaincre, le convertir, le raffermir, le divertir, peu importe, c'est un outil de communication qui vise un effet chez le lecteur. Plus précisément, donc, l'analyse narrative recherche dans la configuration même du récit les traces d'une intentionnalité et ses effets probables chez le lecteur. Mais dirons-nous, intention de quel auteur et effet sur quel lecteur? Comme le schéma reproduit sur votre feuille le montre, l'analyse narrative renonce à considérer l'auteur et le lecteur réel, je dirais aussi les circonstances comme telles de production de l'œuvre, qui sont jugées désormais hors de portée. C'est vrai que c'est plus facile avec un texte comme une épître de Paul de parler de l'auteur et peut-être de la communauté auquel il s'adresse, mais si on prend des textes très anciens de l'Ancien Testament, la chose n'est pas toujours aussi évidente de se prononcer avec une certaine fiabilité sur le milieu de production, sur l'auteur et sur la communauté. Donc, ce sont souvent des éléments qui sont hors de notre portée et il faudrait qu'on se serve de ça pour interpréter le texte. Donc, il y a quand même une zone mouvante avec ces approches. L'analyse narrative se concentre essentiellement sur l'œuvre littéraire, comme Michel l'a dit tout à l'heure, dans laquelle se laissent découvrir les traces de l'auteur ainsi qu'une image du lecteur idéal à qui est destiné le récit. C'est ce que le schéma ici veut démontrer. Voyez-vous, l'auteur réel et le lecteur réel sont à l'extérieur des grandes parenthèses, qui sont dire que ça, c'est à l'extérieur de l'œuvre, c'est dans le monde réel. On n'a pas accès à ça pour la plupart des textes anciens. Alors nous, on se concentre sur le récit lui-même, qui projette quand même une image de son auteur par les choix qu'il a fait, par une intention qu'on peut quand même voir dans le texte. et aussi une image de son lecteur selon différents éléments qui sont dans le texte. Donc, c'est à ces deux instances que nous en appelons et non pas au lecteur réel. Mais dirons-nous encore, a-t-on besoin d'une méthode pour lire des récits? De fait, lire une histoire est la chose la plus naturelle qui soit pour nous. Depuis notre plus lointaine enfance, nous entendons ou nous lisons des récits. Et aujourd'hui, le cinéma nous met en contact presque quotidien avec cette forme de communication. Et la vie humaine n'est-elle pas en elle-même, en quelque sorte, narrative? Quand nous repensons à notre vie ou faisons une biographie, ne s'agit-il pas de mettre en forme nos souvenirs selon une séquence chronologique, en faisant ressortir les enchaînements de cause à effet entre les faits? Bref, nous faisons une histoire avec nos souvenirs, car notre vie est un récit. Pourtant, je peux avoir une intention en racontant ma vie. Je peux, par exemple, vouloir expliquer sur la base de mon passé pourquoi j'ai décidé de léguer toute ma fortune et de devenir un moine bouddhiste. C'est cette intention qui va dicter la manière de raconter ma vie, qui va expliquer le choix des événements à raconter ou des traits de caractère à souligner, qui va orienter le sens que je vais donner à tel ou tel événement de mon passé. L'analyse narrative est justement outillée pour faciliter la perception de cette intention et les choix d'auteurs qui la supportent. Donc, c'est un peu ce que la méthode narrative a apporté. Avant, on savait très bien que les discours, comme ceux de Paul, étaient des outils rhétoriques, étaient destinés à influencer, mais on ne le savait pas trop pour un récit. Et cette méthode cherche à montrer comment un récit, lui aussi, est organisé pour influencer, pour atteindre un but chez le lecteur. Donc, pour lire un texte de cette façon, il faut accepter certaines règles de base. Je vais vous en présenter quelques-unes. Ensuite, on va regarder un petit peu dans le texte de Jean. Avant toute autre chose, il nous est demandé de se mettre dans la peau de ce lecteur idéal qui est porté par le récit lui-même. Pour un texte ancien comme la Bible, cela signifie combler le fossé historique, socio-culturel et religieux qui nous en sépare. En ce sens-là, c'est pas vrai que l'analyse narrative se préoccupe pas de l'histoire ou de l'historicité. Elle ne se préoccupe pas des strates de composition dans un texte ancien, mais elle se préoccupe du milieu socio-culturel, religieux dans lequel le texte a été produit, parce que le lecteur, porté par l'œuvre, doit connaître tout ce qu'il y a dans l'œuvre, et si l'œuvre fait appel à des institutions sociales, des coutumes, des clichés, comme Michel nous l'a montré, alors ce lecteur idéal que je dois essayer auquel je dois essayer de me rapprocher le plus possible, il doit connaître ces choses. Donc, oui, je suis intéressé par tout ce qui entoure le texte, mais non pas dans sa composition pour remonter à des états antérieurs. Donc, connaître tout ce que ce lecteur est censé savoir, mais en même temps, oublier tout ce qu'il n'est pas supposé savoir. Donc, si je lis l'Évangile de Jean, je ne suis théoriquement pas supposé savoir que la mère de Jésus se nomme Marie, parce que le texte n'en parle pas. Donc, je dois oublier ce que je sais, mais que ce lecteur porté par le texte ne saurait pas. Et ce qui n'est pas une chose facile à faire. Une autre règle que je dois accepter, c'est entrer dans le monde narratif déployé devant moi en laissant à la porte du récit mon intelligence critique. Ça aussi, c'est pas facile à faire. C'est ce que les narratologues appellent « suspension of disbelief ». Donc, je dois oublier ma rationalité. Si j'entre dans le monde de Tolkien et du Seigneur des Anneaux, si j'entre dans le monde d'une fable de La Fontaine, je devrais accepter que les animaux puissent parler, je devrais accepter tout ce qui est dans cette œuvre comme étant la réalité que je dois absorber pendant que je suis dans le récit. Pendant que je lis, le monde du récit est le seul vrai monde, le monde réel, avec ses propres lois, son histoire, ses personnages. Le monde du récit n'est jamais le monde réel, même s'il peut lui ressembler. C'est un monde créé par l'auteur, parce que nécessairement filtré par sa vision, transmis par ses mots, mais aussi limité par ses choix. Et même s'il se veut une copie du monde réel dans lequel on vit, il est forcément un monde tel que perçu et compris par l'auteur. C'est plus facile à comprendre dans un film, me direz-vous, parce que même dans un film historique, disons un film sur Élisabeth Ière ou sur Napoléon, par exemple, on sait bien que les images qui sont montrées sont des reconstructions historiques et sont aussi des créations artistiques. On a plus de misère à accepter ça quand c'est un récit évangélique, récit ancien, mais du point de vue de l'analyse narrative, c'est la même chose. Donc, ce monde narratif, il ne ressemble pas toujours au monde réel. J'ai évoqué les fables de La Fontaine, par exemple, ou Tolkien, mais c'est la même chose quand je lis la Bible. Je dois accepter, par exemple, que la nature puisse être momentanément contrôlée par Dieu pour venir en aide ou pour punir les humains, que des êtres célestes peuvent apparaître ici-bas et y intervenir, qu'un prophète peut ramener un mort à la vie, que les apôtres ont pu guérir des infirmités, que Jésus a pu multiplier les pains, changer l'eau en vin ou marcher sur les eaux déchaînées, tous des événements dont je n'ai jamais pu voir de mes propres yeux dans le monde réel. Mais quand j'entre dans le monde biblique, je dois les accepter. Évidemment, une fois le récit terminé, mon intelligence critique reprend le contrôle et va opérer le passage nécessaire entre les deux mondes, de manière à transposer la signification du récit pour ma propre existence. Il découle de ce principe que du point de vue de l'analyse narrative, tout ce qui se trouve dans le récit vient de l'auteur. Quand bien même ce serait une tradition antérieure, comme on a vu tout à l'heure, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, on dit « il en cite plus que ce qu'il a besoin », ben c'est parce que tout ce qui se trouve dans le texte, c'est vraiment choisi par l'auteur, ça vient de l'auteur. Certes, l'auteur d'un évangile n'invente pas tout ce qui s'y trouve, puisque bien des faits et des paroles de Jésus proviennent de traditions antérieures qui arrivent à l'évangéliste, de très loin, même pouvant même remonter aux disciples eux-mêmes. C'est quand même l'auteur qui va choisir de reprendre de cette tradition tel élément jugé important. C'est lui qui va imposer sa formulation, c'est lui qui va choisir la manière de présenter cet élément, etc. Bref, ce n'est pas dans le récit parce que c'est arrivé ainsi, mais parce que l'auteur l'a voulu ainsi, quand bien même ce serait arrivé ainsi. Cela nous oblige à faire ce qu'on appelle du « close reading », c'est-à-dire une lecture très près du texte et très attentive qui va s'arrêter à chaque formulation et va prendre au sérieux chaque détail en se demandant pourquoi c'est là, pourquoi il en est ainsi et quel effet est recherché par la présence de cet élément. Enfin et surtout, c'est peut-être ça le principe premier de l'analyse narrative, une lecture narrative consiste à faire la distinction entre l'histoire qui est racontée, ça c'est le quoi, hein, c'est la chose qui est racontée, et sa mise en récit, c'est-à-dire le comment, la manière qu'elle est racontée. Raconter une histoire, c'est un art, mais aussi un moyen puissant d'influencer le lecteur en le faisant entrer dans un monde qui ressemble à la vraie vie et où il peut vivre des expériences qui vont modifier sa pensée, sa manière d'être et sa façon d'agir. Or, c'est au niveau de cette mise en récit que l'art narratif est le plus sollicité. C'est exactement comme dans un film. On va souvent voir un film parce qu'on sait que c'est l'œuvre de tel ou tel metteur en scène qu'on apprécie. Coppola, Tarantino, Spielberg, etc. On pourrait demander à ce metteur en scène qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il a voulu exprimer, démontrer dans son film. Même s'il n'est pas l'auteur du scénario, c'est lui qui impose sa vision, qui oriente le message qu'il veut véhiculer. C'est lui qui gère les prises de vue, qui décide où va être placée la caméra et qu'est-ce qu'elle va nous montrer. Il choisit les scènes à conserver et comment les organiser les unes avec les autres. Il va superviser le jeu des acteurs, les traits qu'ils vont manifester. Donc, la mise en scène, c'est le comment de la narration. Lorsque, par exemple, Baz Luhrmann a repris l'histoire de Gatsby récemment avec DiCaprio, il en a fait un récit tout à fait différent de celui de Jack Clayton en 1974 avec Robert Redford. Il suffit de comparer les deux films, c'est la même histoire. Mais le comment, la manière de raconter, en fait un autre récit. C'est la même chose avec nos quatre évangiles canoniques, à la différence que les évangélistes sont à la fois scénaristes et metteurs en scène. Il y a bien une seule histoire de Jésus, mais elle a fait l'objet de quatre mises en scène différentes dans le Nouveau Testament. Et pour se rendre compte de l'habileté de chacun de ces metteurs en scène, on pourrait, par exemple, juste comparer le début de chaque évangile. Par exemple, les deux récits de l'enfance en Matthieu et en Luc, ou les prologues en Luc et en Jean, pour voir comment juste le début peut influencer la lecture. Le lecteur de l'Évangile de Jean, qui vient de se faire dire dans le prologue que Jésus est la parole qui a créé le monde, qui est venu habiter en chair et en os dans notre monde, il lira pas le récit ensuite de la même manière que celui qui va lire l'Évangile de Marc, qui entre directement dans le ministère de Jésus et devra découvrir par lui-même au fil du récit qui est ce Jésus dans l'Évangile de Marc. Donc, il y a une grande influence dans la mise en scène du récit. Je vous donne un autre exemple. En Jean 6, à un moment donné, il y a un conflit dans les disciples et Jésus se demande si les disciples vont l'abandonner. Pierre lui répond, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. » Et là, Jésus leur répond ceci, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les douze? Et cependant, l'un de vous est un diable. » Et là, le narrateur ajoute, « Il désignait ainsi Judas, fils de Simon l'Iscariote, car c'était lui qui allait le livrer, lui, l'un des douze. » Alors, on peut se demander pourquoi il mentionne ça à cet endroit. C'est l'un des faits de l'histoire racontée qu'à l'occasion de la fête de Pâques à Jérusalem, Judas va livrer Jésus aux autorités juives. Mais en Jean 6, 70 et 71, c'est un pur choix narratif du metteur en scène de dire à l'avance que Judas, l'un des douze, que Jésus a choisi, est un diable et que c'est lui qui allait livrer Jésus. Il aurait très bien pu attendre le moment de raconter l'événement de la trahison pour dire que Judas était un diable et que Jésus le savait. L'analyse narrative va observer ce choix de l'auteur et va se questionner sur son intention et sur l'effet que ce détail ajouté au chapitre 6 produit à la lecture. Tout d'abord, la remarque suscite de la curiosité chez le lecteur, c'est évident. Pourquoi Jésus l'a-t-il choisi, sachant qui il était et ce qu'il allait faire? Cette remarque fait également réfléchir le lecteur assez tôt dans le récit sur la volonté divine, sur la nature du plan de salut de Dieu, sur le groupe des disciples lui-même et sur la nature de leur attachement à Jésus. Alors, pendant tout le reste du récit, le lecteur va avoir ces choses en tête, cette réflexion en tête, et ne verra pas le récit de la même façon. Donc, c'est à ce genre de choses que l'analyse narrative s'arrête pour essayer de comprendre, de voir ce choix d'auteur et d'essayer de comprendre pourquoi c'est là et quel effet c'est supposé produire chez le lecteur. Donc, tous ces détails ont une grande importance pour l'analyse narrative. Bon, voilà, c'est un peu la manière ou les principes de l'analyse. J'en viens maintenant à montrer très brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, quelques aspects de ça dans le texte de Jean 1. D'abord, je vais regarder un peu la trame narrative, ensuite les personnages, et peut-être, si j'ai le temps, le narrateur, qu'est-ce que le narrateur nous dit. La trame narrative, c'est la charpente du récit. C'est l'équivalent du scénario dans un film. Les actions principales de l'histoire sont organisées en un récit cohérent et complet qui se distribue entre un début et une fin. Et dans un récit bien construit, on s'attend à ce que cet enchaînement chronologique des événements produisent une tension narrative, c'est-à-dire une progression entre un début, une situation initiale et une situation finale. Tout ça par le biais d'un noyau minimalement construit de trois éléments. Il va y avoir une complication par rapport à la situation initiale, il va y avoir une action transformatrice et puis un dénouement, une solution. Donc, l'analyse narrative aborde le scénario, aborde les séquences dans le récit de cette façon, mais normalement en faisant un va-et-vient constant entre l'ensemble du récit et la partie qu'on étudie, ce que je ne peux pas faire ce soir. Mais je vais noter juste quelques éléments. Entre le début du chapitre 1, pour moi, le récit commence au verset 19. Le prologue, je le traite à part, puisque c'est le narrateur qui me donne des informations avant le début du récit. Donc, entre le verset 19 et le verset 51, il y a un changement de situation. Au début, on a le Baptiste qui baptise à Béthanie et qui a des disciples autour de lui. Et à la fin, c'est Jésus qui est entouré de disciples, qui le confesse comme Messie, comme Christ attendu par la tradition juive. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Donc, il y a eu la délégation juive qui vient auprès du Baptiste pour s'enquérir de la raison pourquoi il baptise. Cela déclenche son témoignage en faveur de Jésus qui s'approchait de lui. Et là, il va dire que c'est lui l'agneau de Dieu ou le Fils de Dieu. Et là, deux de ses disciples vont partir à la suite de Jésus. L'un d'eux, André, va aller trouver Pierre, son frère, et lui dire « Nous avons trouvé le Christ Messie ». Ensuite, il y a une autre vague où c'est Jésus lui-même qui s'en va en Galilée. Il recrute Philippe, lui dit « Suis-moi », sans dire rien sur son identité. Puis Philippe va voir Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont parlent les Écritures ». Et puis là, Nathanaël va venir à Jésus, et c'est sur la connaissance prophétique de Jésus qu'il l'a vu sous le figuier, et puis qui dit « C'est un véritable Israélite sans artifice », que Nathanaël va croire en lui en confessant une confession messianique tout à fait typique, « Tu es le roi d'Israël, tu es le Fils de Dieu », c'est-à-dire « Tu es le Messie attendu ». Mais voilà que Jésus va faire une réponse surprenante qui nous laisse un petit peu stupéfaits. Il va répliquer à Nathanaël, « Attendez, vous verrez des choses bien plus grandes encore ». Et vous verrez les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc, c'est étrange, cette réponse, et ça laisse le lecteur un peu, ça pique sa curiosité, et ça le laisse un petit peu, il se questionne sur pourquoi Jésus répond ça et qu'est-ce qu'il veut dire. Nous avons ici ce qu'on appelle une intrigue de reconnaissance du héros. La question, c'est de savoir qui est Jésus. Qui est-ce qui croit en lui, qui vient en lui, et sur quelle base, avec quelle confession? Nous avons d'abord le témoignage du Baptiste. Hein? Le récit du témoignage du Baptiste est très intéressant à ce point de vue parce qu'il est rempli de blancs, de non-dits. On ne sait pas pourquoi Jésus vient vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste raconte que Dieu lui avait promis un signe, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Jean-Baptiste, à deux reprises, dit « Moi, je ne le connaissais pas ». Et voilà que Jean-Baptiste, maintenant, affirme « Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est lui le Fils de Dieu ». Alors, le lecteur qui voit ça se dit « Comment le Baptiste peut-il émettre cette confession qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui est le Fils de Dieu ?» alors qu'il avait affirmé qu'il ne le connaissait pas, mais que Dieu lui a dit, « Tu vas avoir un signe qui va te dire, voilà, c'est lui qui baptise dans l'Esprit-Saint. » C'est de lui-même que Jean-Baptiste en arrive à dire, « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et Fils de Dieu. » La lecture narrative qui fait une lecture attentive se rend compte de ce décalage et on dit peut-être que l'effet qui se produit chez le lecteur, c'est que déjà, il met en bémol la valeur ou la justesse du témoignage de Jean sur l'identité de Jésus. Mais il y a plus. Le lecteur informé se rend compte de ce qui cloche dans ce récit. C'est l'absence de l'événement central qui sert de cadre à l'événement, à la scène, événement qui explique pourquoi Jésus vient vers Jean, puisque le récit, on ne sait pas pourquoi Jésus vient vers Jean, événement qui contiendrait aussi le signe annoncé par Dieu. Tout ce qu'on a dans le récit, c'est que Jean-Baptiste dit « Moi, j'ai vu et j'atteste que… » Mais l'événement lui-même n'est jamais raconté quand est-ce que l'Esprit est descendu sur Jésus. Bref, il manque l'événement du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. L'auteur de l'Évangile va reprendre cette scène qui lui vient probablement d'une tradition ancienne, parce qu'elle est présente dans les autres évangiles, mais ils vont en biffer le baptême de Jésus, au risque d'introduire des accros dans sa présentation, dans son récit. Donc, le lecteur enregistre ça et il se demande pourquoi il en est ainsi. Et probablement qu'il en est ainsi parce que pour l'auteur, il était impossible ou inconcevable que le Logos divin, la parole créatrice de Dieu, se soit soumise au baptême de Jean en vue du pardon des fautes et de la conversion. Un autre élément intéressant dans ce chapitre, les deux disciples du Baptiste qui ont entendu Jean et qui se mettent à la suite de Jésus. Jésus se retourne et leur demande « Que cherchez-vous? » Alors là, on s'attend à ce que ses disciples témoignent d'une quête spirituelle profonde, lui demandent quelque chose genre « Enseigne-nous le sens ultime de la vie ici-bas, enseigne-nous le chemin du salut, la voie de la sagesse, révèle-nous les mystères de la connaissance divine, je ne sais pas. » Ils suivent celui qui est supposé être le Fils de Dieu, celui qui baptise dans l'Esprit-Saint. Et qu'est-ce qu'ils demandent? « Où demeures-tu? » Où demeures-tu? Le narrateur aurait sans doute pu essayer de trouver un sens profond à cette demande et faire dire à Jésus une réplique de sagesse profonde qui serait un enseignement, mais non. Jésus se contente de dire « Venez et voyez ». Et le narrateur de nous informer qu'ils y allèrent, virent où ils demeuraient et demeurèrent là avec lui ce jour-là. Il y a de quoi laisser le lecteur frustré et déçu. L'analyse narrative enregistre ça. Non seulement la quête des disciples lui semble bien futile, mais en plus, il n'apprend même pas où demeure Jésus. Pourtant, cette scène fait son effet, et c'est ça qui intéresse l'analyse narrative. Le lecteur reste sur sa faim et sa curiosité est piquée, et une attente est suscitée. Il voudrait bien savoir où demeure Jésus, puis pourquoi c'est ça que les disciples cherchent au lieu de chercher la grande quête spirituelle. Mais attentif à ça, plus tard dans le récit, le lecteur va pouvoir combler son attente et résoudre sa frustration lorsqu'il va comprendre qu'en Jean, dans l'Évangile de Jean, c'est précisément la nature et la vocation des disciples. C'est tout simplement ça, de suivre Jésus là où il demeure et d'être avec lui là où il demeure. Ça ne sert pas à d'autre chose d'être disciple, ça sert à ça. Mais parce que le lecteur, à un moment donné, va apprendre que la demeure de Jésus, ce n'est pas une maison de bois à Capharnaüm ou ailleurs, c'est la demeure du Père céleste, c'est le ciel. Et c'est la vocation des disciples de suivre Jésus jusque-là. Le lecteur, il ne comprend pas encore au chapitre 1. Mais il enregistre une attente et une frustration de savoir qui, plus tard, va être comblée dans le récit. Ça, c'est des stratégies narratives de l'auteur pour créer un effet, pour amener son lecteur là où il veut l'amener. Et l'analyse narrative, c'est ça qu'on cherche à comprendre. Est-ce qu'il me reste un petit peu de temps encore? Oui. Je saute par-dessus les personnages parce que j'aurai pas le temps. Ça serait bien intéressant de voir notamment les personnages des disciples. Mais je vais vous parler plutôt du narrateur, la voix qui raconte le récit, qui est toujours fort importante en analyse narrative. Le narrateur, c'est l'équivalent de la caméra plus le son dans un film. Il est la voix qui raconte le récit. Il est l'énonciateur de tous les mots qui se trouvent écrits sur la page. Et dans le monde biblique, dans le monde ancien, je dirais avant la période moderne et post-moderne, ce narrateur, il est toujours fiable à 100%. Le lecteur lui fait une confiance aveugle. Tout ce que le narrateur dit, c'est comme la caméra d'un film qui me montrerait objectivement un événement ou une scène. Je dois me fier à ça absolument, c'est la réalité dans le monde narratif. Et en Jean, le narrateur va intervenir tout au long du récit pour faire des commentaires, donner des explications, mais à deux endroits plus particuliers, son intervention revêt une importance capitale pour la lecture. C'est le prologue qui est sur votre page, un extrait sur votre page qui débute l'Évangile, et c'est la conclusion de l'Évangile à la fin, au chapitre 20, versets 30-31. Le lecteur de Jean est un rare privilégié. Du fait que l'auteur lui livre par la voix du narrateur son intention globale pour avoir écrit l'Évangile. Il dit au chapitre 20, « Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Tout l'Évangile, au dire de l'auteur aussi, du narrateur, ne sert qu'à ça. La foi des disciples en vue du salut. La chose est plutôt simple. L'Évangile ne cherche pas à annoncer la venue imminente de la fin, l'établissement du royaume de Dieu ou l'urgence de la conversion. Il vise tout simplement la foi en Jésus comme Fils de Dieu afin que ceux qui croient en lui obtiennent la vie éternelle. Sachant cela, il nous est plus facile de découvrir et d'évaluer les stratégies narratives mises en œuvre dans cette version de la vie de Jésus, dans cette mise en scène de la vie de Jésus, pour atteindre cet objectif final. Et le prologue qui débute l'Évangile est significatif à cet effet. Le prologue, c'est un condensé théologique qui est adressé au lecteur en aparté par l'auteur pour influencer sa lecture, pour le guider dans l'Évangile qui suit, pour lui donner les bonnes clés de lecture et un peu influencer son positionnement idéologique dans le récit. La stratégie qui s'ouvre dans le prologue et qui va se continuer dans tout l'Évangile consiste à présenter deux chemins au lecteur, celui qui mène au salut et qui consiste à accueillir ou à croire en Jésus comme parole de Dieu faite chair, et l'autre qui va vers la perdition, qui consiste à rejeter le Logos divin venu dans le monde. Vous l'avez dans les versets que je vous ai reproduits. Hein, il était dans le monde et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, etc. Donc, croire en Jésus pour être sauvé, refuser de croire en lui, qui mène au non-salut, donc à la perdition. Le prologue laisse penser que peu nombreux sont ceux qui ont pris le chemin du salut. Dans l'Évangile, ces deux chemins sont celui des disciples qui viennent à Jésus, qui progressent dans la foi jusqu'à la foi qui traverse l'épreuve de la croix, qui vont progresser malgré les incompréhensions, les doutes et les reculs. Puis il y a le chemin des Juifs et surtout de leurs autorités, les autorités juives, qui vont progressivement s'endurcir dans leur rejet de Jésus et, ce faisant, s'aliéner de tout ce qui faisait d'eux des Juifs, de tout ce qui faisait leur appartenance au judaïsme. Et le personnage des disciples, évidemment, est fait pour susciter l'empathie du lecteur qui va s'associer à eux, qui va s'identifier à eux et qui, dans l'Évangile, va être porté à suivre leur cheminement et à s'éloigner ou à rejeter le comportement des autorités qui rejettent Jésus pour ainsi l'amener au salut. Donc, c'est pour vous montrer un peu le genre de choses auxquelles l'analyse narrative s'intéresse, comme vraiment comme un moyen rhétorique de communication qui vise un effet chez le lecteur. Évidemment, ça ne remplace pas tous les bienfaits de l'historico-critique pour donner le sens théologique ou la signification contemporaine d'un récit. Mais quand même, ça nous permet d'étudier, ça complète la méthode historico-critique, je dirais, ou une autre méthode littéraire, en nous montrant que le récit, comme récit, est organisé par un metteur en scène, par un évangéliste, pour atteindre un objectif et influencer le lecteur dans sa lecture.
Merci.